pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Aujourd'hui, on vit encore dans une guerre de classe où il y a une classe dominante qui est bien installée, qui a bien toutes les ficelles. Regardez le discours médiatique, on a l'impression qu'il n'y a qu'une voix. Parce que pourquoi c'est tous les mêmes qui détiennent tous ces médias? Les gens se rendent compte, je ne sais pas si tout le monde va le verbaliser comme ça, mais que c'est une guerre de classe et qu'à un moment donné, ouais, il faut de la justice sociale et à un moment donné, il faut retourner la table pour que ça change parce qu'on voit bien que ce n'est pas par les voies républicaines du Parlement que ça change.
Et dans ces modalités de changement, il y a ce mouvement Bloquons tout de septembre 2025. Salut les amis, c'est JBD pour Polémique, c'est lavoixoff.com et votre radio libre préférée. Avec aujourd'hui une heure de balade dans les rues de ma ville, Tours, en région centre, cité plutôt bourgeoise, dans une aglo plutôt tranquille. Parce que comparé à Rennes, Nantes ou Paris, les manifs à Tours ressemblent généralement à d'aimables promenades de santé. Sauf que le 11 septembre 2025, la police y a brutalement et lâchement matraqué et gazé des lycéennes et lycéens. Mais on n'en est pas encore là. On vous propose pour l'heure quelques moments saisis avant le 10 septembre 2025. Et ce reportage commence donc avec une lutte courageusement menée par les membres du collectif Palestine 37 qui, depuis 22 mois, se rassemblent tous les samedis en centre-ville pour dénoncer le génocide en cours.
McDo, partenaire
d'Israël génocidaire.
McDo, partenaire
d'Israël génocidaire.
225 restaurants franchisés McDonald's présents en Israël ont fourni des milliers de repas aux soldats de l'armée israélienne en partance pour Gaza pendant que celle-ci tuait des enfants. Boycott McDonald's, complice du génocide. Boycott McDo.
Le boycott contre des entreprises qui collaborent avec l'État génocidaire d'Israël, ne pensez pas que c'est dérisoire, c'est au contraire un moyen de lutte très efficace, surtout quand les magasins font leur compte. Quand le pouvoir des citoyennes et citoyens ne pèse plus, il reste le pouvoir des consommateurs et consommatrices. On parle boycott dans quelques instants avec des membres de Palestine 37. C'était le samedi 6 septembre 2025.
Live Palestina, o grossa sionismen.
Live Palestina, o grossa sionismen. Live, live, live Palestina. Live, live, live Palestina.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence aujourd'hui. Votre mobilisation, votre solidarité, votre détermination sont la preuve que la conscience humaine ne s'éteint pas, même face à l'injustice la plus brutale. Nous sommes réunis ici, comme tous les samedis, pour porter la voix du peuple palestinien, un peuple qui subit depuis 702 jours un génocide implacable, dans l'indifférence ou le silence complice de trop de gouvernements. 702 jours de bombardements, de peur, de massacres. 702 jours de déplacements, de nettoyage ethnique, de morts, de blessés déchiquetés. 702 jours de disparus, d'injustice, d'inaction. 702 jours de génocide.
Gaza est devenue une plaie béante au cœur de l'humanité. Une blessure qui dévoile la cruauté de l'occupation et le silence du monde. Ce qui se passe n'est pas une simple nouvelle passagère, mais un crime historique qui restera une tache de honte sur le front de l'humanité. Un crime qui ne s'efface pas avec le temps et qui rappellera aux générations futures ce qui est arrivé lorsque le monde s'est tu, laissant 1 million d'êtres humains affronter seul la mort. L'occupant, qui a largué plus de 150 000 tonnes de bombes sur Gaza ces 22 derniers mois, essaie à présent de nous faire croire à un nouveau plan de prise de contrôle. Israël, qui occupe Gaza depuis 1967, contrôle ses frontières terrestres, maritimes et aériennes, et depuis 18 ans, chaque calorie qui y entre, chaque colis qui en sort, et qui la bombarde quand bon lui semble depuis 20 ans. L'occupant ne reste pas seulement le droit, n'inverse pas seulement les valeurs, mais redéfinit aussi les mots et les faits avec une propagande reliée par les médias. À présent, l'occupant évoque sans vergogne ses plans d'annexion du Proche-Orient, du Nil à l'Euphrate, sous le nom prometteur de grande paix au Proche-Orient. L'équation est simple. Grand Israël égale destruction de la Palestine et des Palestiniens, plus soumission des États voisins par les bombes, le chantage, la corruption, le tout sous couvert de missions messianiques. Que l'on nous explique qui sont les fanatiques fondamentalistes. Gaza traverse une famine extrêmement grave causée par le blocus total imposé par Israël. Le spectacle des parachutages n'ont pas pour but de mettre un terme au blocus, mais de permettre qu'il continue et loin d'apporter une amélioration qui contribue à aggraver la famine. Cependant, les médias et les puissances occidentales continuent d'éviter d'utiliser le terme de famine. Le reconnaître sans rien faire serait un aveu de complicité. L'histoire se souviendra de la famine à Gaza. L'histoire se rappellera comment le monde a accepté qu'on lui dise, au milieu du génocide, que le ciel était clair.
Selon les organisations humanitaires, pour des milliers d'enfants, c'est déjà trop tard. Ils vont mourir ou garder des séquelles à vie, même si la nourriture rentre sans restriction ce soir. Mais des milliers d'autres peuvent encore être sauvés. Le docteur Sama Jaber alerte sur les conséquences mentales de la famine. Outre les dommages cérébraux irréversibles, la famine entraîne également des dommages comportementaux, entraînant un traumatisme sur plusieurs générations et détruisant le tissu social. Malgré le rapport d'éminents spécialistes du génocide qui déclare officiellement que la guerre menée par Israël contre Gaza répond à la définition du génocide donnée par l'ONU, les médias occidentaux s'obstiennent à refuser d'utiliser le terme de génocide, s'essuyant les pieds sur les rapports des organismes des droits de l'homme de premier plan. À lui seul, ce refus est un aveu de complicité.
Il ne s'agit pas de demander à l'occupant de larguer un peu moins de bombes, mais de le stopper par tous les moyens. Il ne s'agit pas de demander à l'occupant de laisser entrer un peu plus de nourriture, mais de forcer le blocus, d'ouvrir en grand les portes du camp de concentration qu'est Gaza, d'imposer le droit par la force. On ne devrait pas demander des faveurs ou des autorisations à un État génocidaire. On ne discute pas avec des criminels en série, on les arrête. N'est-il pas absurde que face à la famine annoncée, organisée, filmée, la seule réponse du monde soit le largage par avion d'une quantité dérisoire de nourriture?
Cette quantité infime d'aide, qui souvent s'abîme en mer, tombe dans des zones interdites aux Palestiniens, tue des enfants en s'abattant sur leurs tentes, s'éclate au sol et se répand dans le sable, n'est qu'une des multiples formes que revêt le génocide. Une distraction, un camouflage, qui sont l'occasion pour l'occupant et ses soutiens d'une nouvelle campagne de propagande. Quatre États complices de génocide, dont la France se rachète une conscience en larguant l'équivalent du chargement de deux camions sur Gaza, et pendant ce temps, les parents continuent de donner des biberons d'eau salée à leur bébé au lieu de lait.
Malgré le génocide à Gaza, les exportations d'armes vers Israël ne faiblissent pas. Mediapart publie le rapport 2025 sur les exportations d'armement de la France. Avec 21,6 milliards de commandes, l'industrie militaire a connu sa deuxième meilleure année. Dans le même temps, les exportations à destination de l'État criminel hébreu ont atteint un montant inégalé depuis 8 ans, et ce, malgré le génocide en cours. En continuant à vendre des armes à Israël, malgré le carnage à Gaza, l'État français se rend coupable de complicité. Il ment à son peuple en brandissant les droits humains, tout en alimentant l'arsenal d'un occupant qui massacre un peuple enfermé. Chaque discours officiel n'est qu'un voile hypocrite qui cache la réalité des contrats juteux sanglants. Chaque livraison scelle la responsabilité de la France dans ce génocide. Le sang qui coule à Gaza tache les mains du gouvernement français.
Si un cessez-le-feu n'est pas mis en place pour permettre l'aide humanitaire d'atteindre toute la population de la bande de Gaza, et si les approvisionnements alimentaires essentiels et les services de santé, de nutrition et d'eau, d'assainissement et d'hygiène ne sont pas rétablis immédiatement, les décès évitables augmenteront de manière exponentielle, a souligné l'IPC, la principale autorité mondiale en matière de crise alimentaire soutenue par l'ONU.
Le site Orient 21 publie un article de l'historien Fabrice Risseputi, les camps de concentration de l'Algérie à Gaza. L'annonce faite par Israël de l'établissement de zones de transit humanitaire n'est pas sans rappeler les camps de regroupement installés par la France en Algérie. Les deux stratégies coloniales partagent la conviction de la responsabilité collective de la population et d'un contrôle fantasmé sur les corps colonisés. Dans la guerre d'anéantissement déclenchée à Gaza, l'historien de la guerre coloniale d'Algérie voit, non sans effroi, rejouer en Palestine occupée des événements historiques qui lui sont très familiers. Les réactions d'Israël à l'attaque du Hamas ont été du même ordre que celles de la France en Algérie. Massacre selon le principe de la responsabilité collective. Abolition de toute distinction entre civils, désarmés et combattants. Usage d'armes interdites, disparition forcée, torture, exécution sommaire, enfermement extrajudiciaire d'adultes et d'enfants. Le tout sur fond d'une déshumanisation systémique des colonisés. On parle de la création d'une zone de transit humanitaire. Les historiens connaissent bien ces euphémismes employés pour désigner des camps de concentration. Ils étaient nommés en Algérie centres de tri de transit, d'hébergement ou de regroupement.
Bien sûr, des différences notables existent entre les pratiques françaises en Algérie et celles d'Israël à Gaza et en Cisjordanie. L'une de ces différences est que la France était sous la surveillance redoutée d'une communauté internationale, voire d'une partie de son opinion publique, ce qui lui imposait de modérer quelque peu la violence exercée contre les colonisés, tout au moins de la dissimuler autant que possible. Rien ne retient malheureusement Israël aujourd'hui dans la résiliation de ce qui est le fantasme ultime de toute colonie de peuplement, faire disparaître physiquement le peuple colonisé qui résiste. Le peuple palestinien mérite de vivre, un peuple qui a été opprimé, blessé et abandonné par tout le monde, que ce soit le monde occidental ou le monde islamique. Ils ne sont pas traités avec la décence humaine élémentaire. Ils ont été lésés par tout le monde.
Les collectifs en solidarité avec la Palestine soutiennent en majorité le mouvement « Indignons-nous, bloquons tout ». Le collectif Solidarité Palestine 37 participera au 10 septembre à la mobilisation contre ce gouvernement complice du génocide du peuple palestinien. Nous invitons à rejoindre le mouvement de grève et de blocage. Rendez-vous à 10h, place Jean Jaurès pour des actions boycott et une manifestation à 18h30, place Jean Jaurès. Le peuple palestinien ne doit plus être oublié. Il doit être entendu. Assez d'injustice. Chaque voix compte. Chaque geste compte. Aujourd'hui, c'est à nous de dire stop à tout ça et plus jamais ça. Justice pour la Palestine, justice pour Gaza, justice pour tous les peuples opprimés. Palestine vivra, Palestine vaincra.
Palestine vaincra.
Palestine
vivra.
Palestine
vaincra.
Palestine
vivra.
On part en manif, direction rue de Bordeaux.
La rue de Bordeaux est piétonne et au bout, on y trouve un McDonald's.
Il tue, affame le peuple palestinien, sioniste, fasciste, c'est vous les terroristes. Boycott, 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 McDo. Boycott, boycott.
Boycott ! Boycott McDo !
McDo, partenaire
d'Israël génocidaire !
225 restaurants, franchisés McDonald's, présents en Israël, ont fourni des milliers de repas aux soldats de l'armée israélienne en partance pour Gaza, pendant que celle-ci tuait des enfants. Boycott McDonald's, complice du génocide.
Boycott, boycott, boycott McDo. Israël assassine les enfants de Palestine.
McDo complice.
Israël assassine
les enfants de Palestine.
Boycott McDo.
Samedi 6 septembre sur la place Jean Jaurès, et tous les samedis il y a manifestation de soutien à la Palestine, et là donc c'est collectif Palestine 37. Bonjour, qui êtes-vous ?
Bonjour, je suis une membre du collectif. Voilà, on manifeste, on se rassemble depuis maintenant 22 mois, quelques jours après qui ont suivi les bombardements. Et nous sommes là tous les samedis.
Hiver comme été.
Voilà.
Au moment où on se parle, est-ce qu'on peut esquisser le bilan humain du génocide en cours ?
Des centaines de milliers de morts, c'est tout ce qu'on peut dire.
Des centaines de milliers, j'aurais été resté à 60 000, moi.
Ah non, mais ça, c'est le bilan officiel. Moi, pour moi, c'est une insulte. Ce bilan est une insulte. Des organisations très pointilleuses, des gens spécialisés même dans l'armée française, hein, ils ont dit que le bilan était bien plus élevé. Les organisations à Gaza, ceux qui comptabilisent les morts, ne comptabilisent que les corps qu'ils ont reçus. Donc en fait, ils ont reçu 60 et quelques mille corps. Mais tous ceux qui ont été effacés, pulvérisés, sous les décombres, ils n'ont pas été comptabilisés. Et aussi, il faut savoir que quand on leur ramène un membre ou une tête, ou, ils ne comptabilisent pas. Il faut que le corps soit entier. Le bilan, il est juste effroyable, effroyable.
Donc la propagande, elle se glisse jusque-là, en fait.
La propagande, elle est partout. Elle est infiltrée dans tout. Ça, l'État d'Israël, c'est un très grand manipulateur, voilà, et il est très fort en termes de propagande.
Alors, il y a un autre État aussi qui est très fort en propagande, c'est le nôtre, l'État français,
bien sûr.
Qui, depuis toujours, livre des armes de guerre à Israël. Là, il y a quelques semaines, quelques mois, il y a des dockers de Fos-sur-Mer, par exemple, qui ont bloqué du matériel de guerre qui partait pour Israël. Donc, la France livre du matériel de guerre à un État génocidaire.
Tout à fait, c'est exactement ça. Et là, il y a un rapport qui vient de tomber de Mediapart. Le bilan est que l'État est un menteur, il a menti à son peuple en disant qu'il ne fournissait que des petits composants électroniques, enfin bon voilà, mais non, il a bien fourni des armes, il y a énormément de matériel qui est livré.
Pendant que la France continue à livrer du matériel de guerre, Macron a déclaré qu'il reconnaîtrait l'État palestinien.
C'est trop tard, Macron aurait dû réagir avant, il y a longtemps que l'Europe aurait dû réagir. En rompant l'accord d'association commerciale avec Israël, elle avait les moyens de faire ça, elle ne l'a pas fait. Des paroles sans sanction, ça ne sert à rien.
Boycott, 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 oui. Boycott, 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 oui. Israël assassine les enfants de Palestine.
Oui,
complice. Bouygues, comme McDonald's, Carrefour, BNP, participent activement financièrement avec l'État d'Israël. Ils sont complices du génocide. Boycott Bouygues.
Boycott, boycott, boycott Bouygues. Boycott, boycott, boycott Bouygues.
Ce tract m'a été distribué. Les cibles du mouvement BDS. Alors BDS, ça veut dire quoi ?
Boycott des investissements sanctions. C'est un mouvement qui existe depuis 2005, c'est-à-dire 20 ans. C'est un mouvement international, non violent, antiraciste, donc contre l'antisémitisme. C'est un mouvement qui se développe petit à petit et qui, je pense, fait un petit peu peur à Israël parce qu'il se développe de la même manière qu'il s'est développé pour l'Afrique du Sud en dénonçant l'apartheid, en dénonçant aujourd'hui le génocide.
Ciblé par ce mouvement BDS, plusieurs entreprises que tout le monde connaît, hein, il y a Carrefour, Reebok, McDonald's, Coca-Cola, Microsoft, BNP, les ordinateurs HP, Siemens. En quoi, par exemple, Bouygues collabore avec l'État génocidaire d'Israël ?
Il leur fournit des réseaux téléphoniques. Par exemple, pour dire ce qu'a fait BDS, le réseau Orange, en 2016, a rompu ses liens avec la filiale qui s'appelait Partner. Et Partner, la filiale d'Orange, fournissait tout ce qu'il fallait pour que les soldats israéliens travail à leur boulot de soldats. C'est un mouvement international, c'est-à-dire qu'il y a eu des mobilisations en France, mais il y en a eu aussi en Égypte, parce que Orange était implanté en Égypte. C'est international, c'est pas rien, parce que maintenant, il faut viser les multinationales. Là, il y a une vingtaine d'entreprises qui sont ciblées, mais l'ONU a reconnu qu'il y avait une centaine d'entreprises liées à Israël qui faisaient des affaires avec Israël. Mais on essaye de se concentrer sur une vingtaine. C'est déjà pas mal, vous voyez, la liste, elle est longue. On n'est pas encore assez développé pour s'intéresser à une centaine d'entreprises. Mais déjà une vingtaine, en ciblant bien et en faisant ça de manière au niveau international, on a peut-être plus de chances d'arriver à un résultat.
Ça peut paraître dérisoire de me dire si j'arrête de faire mes courses à Carrefour, en fait, ça contribue à stigmatiser une entreprise qui collabore avec un État génocidaire.
Oui, 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 c'est ça.
Et c'est la même chose pour les cafés Starbucks, pour les vêtements de Zara, parce que dans de précédentes manifestations, vous les avez ciblés aussi.
Oui, 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 oui. Carrefour, toutes les entreprises ont des chartes où ils respectent les droits de l'homme, etc. Il faut dénoncer tout ça, parce que c'est faux. Ils sont dans le déni et qu'ils favorisent plutôt l'apartheid et le génocide en Palestine.
Souvent, dans ces manifestations, j'ai entendu dire « les Palestiniens, les Palestiniennes savent qu'il y a des gens qui les soutiennent ». Voilà, on a l'impression que faire une petite manif le samedi, ça ne fera pas bouger les choses. Mais en fait, en Palestine, ils savent.
En Palestine, ils savent et ça leur fait du bien. C'est les retours qu'on a. Ça leur donne de la force. Alors, même quand ils voient qu'on n'est pas nombreux, ils voient qu'on on lâche pas, qu'on est toujours là, contre vents et marées. Ça les soulage que, en fait... Il y a des gens qui sont là pour les représenter, pour dénoncer. Ils ne se sentent pas tout seuls, parce qu'ils se sentent quand même abandonnés.
Donc quand on vient faire la manif le samedi ou qu'on ne va pas à Carrefour, voilà, faut pas se dire que ça sert à rien, ça sert.
Ça sert pas à rien. Ah non, ça sert justement. Déjà, ça fait du bien, je pense, pour soi-même, de faire des actions comme celle-ci. Je trouve que c'est un bien-être personnel. Et puis au-delà, ça fait mal à ce genre de marque. Parce qu'on croit qu'on n'est pas beaucoup, mais non, il y a beaucoup de gens qui boycottent et beaucoup de gens qui participent à ces actions, donc qui ne vont pas acheter certains produits, qui ne vont pas faire leurs courses dans certains magasins, qui ont arrêté. Le magasin, il s'en rend bien compte. Les chiffres, et de toute façon, au niveau international, il y a eu des rapports en ce sens où il y a des entreprises qui ont bien chuté.
Il y a aussi ce qui s'est passé, par exemple, en Espagne il y a deux jours, au niveau de la Vuelta, c'est-à-dire du tour de cyclistes espagnols. C'est très important de dénoncer la normalisation qui est entreprise par Israël, parce que Israël participe au Tour de France et au Tour d'Espagne en disant « nous, on est comme tout le monde, on est démocratique chez nous, on est capable de faire du vélo comme tout le monde, ils n'ont pas le droit de faire un génocide d'un côté et rouler au milieu d'un peloton, c'est pas possible. » Donc il faut qu'on dénonce ces choses-là, les Espagnols ont su le faire et c'est très bien. La même chose, il y a un film qu'il faut boycotter, ce film s'appelle « Oui ». Et c'est un film qui est financé par le ministère de la Culture israélien. Même si, en apparence, ils critiquent Netanyahou, ou même ils peuvent le critiquer directement, mais supprimer Netanyahou, ça ne résoudra pas le problème. Parce que la majorité d'Israéliens sont pour la colonisation, pour l'occupation. C'est ça qu'il faut dénoncer, et non pas Netanyahou. Netanyahou, on ne l'apprécie pas beaucoup, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça.
Pourtant, j'ai cru voir des manifestations monstres à Tel Aviv et contre cette droite israélienne contre Netanyahou.
Oui, 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 mais ça ne suffit pas. Et les Israéliens qui manifestent, ils manifestent par rapport aux otages, et ça, on peut comprendre. Mais quand on les interroge après, une majorité disent oui, il faut continuer quand même à Gaza. Oui, la colonisation, il faut continuer. Donc ça, ce n'est pas des alliés directs. Ils manifestent pour ce qu'ils ont à faire, pour les otages, d'accord. Mais en même temps, finalement, ils soutiennent le gouvernement israélien. Ils soutiennent Netanyahou, finalement, même s'ils manifestent contre lui. Et même la gauche israélienne, qui est toute petite, a toujours soutenu la colonisation. Donc s'il y a quelque chose qu'il faut dénoncer, c'est la colonisation et le génocide aujourd'hui.
Puis la mobilisation, elle est internationale. Certes, nous ici, on n'est pas nombreux. Mais on a déjà été nombreux, mais dans certains pays, dans certaines villes européennes ou même à l'étranger, ils sont très nombreux. La mobilisation, elle est internationale.
Live Palestina, o grossa sionismen.
Live Palestina, o grossa sionismen. Live, live, live Palestina. Live, live, live Palestina. Vive Palestina, o grossa sionismen. Vive Palestina, o
Zitrone finden.
Wir haben Blocker Zitronen da.
Wir haben Blocker Zitronen da.
Oh, Pressat du lieber da.
Oh, Pressat du lieber da.
Oh, hela Welten, schöner till vår jord.
Oh, hela Welten, schöner till vår jord.
Liebe, liebe, liebe Palästina. Liebe, liebe, liebe Palästina. Liebe Palästina, o grossa Zionisten. Liebe Palästina, o grossa Zionisten.
Oh, wie har kastat stenar på.
Oh, wie har kastat stenar på.
Soldater och poliser.
Soldater och poliser.
Och vi har skjutit raketer.
Och vi har skjutit raketer.
Mot våra fiender.
Mot våra fiender.
Suite de notre balade dans les rues de ma ville, nous voilà au matin du lundi 8 septembre à la gare de Tours où Nico, de Sud Rail, est avec ses camarades en train de distribuer des tracts et de discuter avec des passantes et passants.
Bonjour Nico.
Bonjour JBD.
Nico, solidaire, Sud Rail.
Sud Rail, Centre-Val-de-Loire. Et conducteur de train au TER Centre-Val-de-Loire.
La France qui se lève tôt pour distribuer des tracts aux gens qui se lèvent tôt pour aller bosser et pour payer des impôts.
Oui, aujourd'hui on distribue un tract Sud Rail solidaire. En fait, on a repris la partie qui nous intéresse nous au chemin de fer, c'est-à-dire le budget des transports. Une petite explication, c'est une campagne qu'il y a en ce moment de solidaire où il y a différents points comme ça du budget qui ont été abordés. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le transport. Et on a également mis un verso sur le droit de grève, parce qu'on s'est rendu compte en allant dans les AG des indignés là en ce moment que beaucoup de gens finalement ignorent leur droit de grève. Enfin, je pense qu'ils savent qu'ils ont le droit de se mettre en grève, mais ils ne savent pas pratiquement comment on fait, quoi. Le droit de grève, qui est un droit constitutionnel, dans le secteur privé, il suffit d'être deux employés à se décider de se mettre en grève avec une liste de revendications que l'on donne à son employeur et on peut cesser le travail.
Et il y a besoin, les deux, là, d'être sous l'égide d'un syndicat ou on peut faire ça de manière indépendante ?
Non, la grève, c'est comme je l'ai dit, c'est un droit constitutionnel, donc c'est un droit que tous les Français et Françaises ont. Il n'y a pas besoin d'être adhérent à un syndicat, il n'y a pas besoin même d'attendre l'appel des syndicats pour se mettre en grève.
D'accord.
Ce qui est en fait une différence avec, par exemple, je vais parler pour les cheminots. Les cheminots, il faut qu'il y ait un préavis de grève qui ait été déposé par un syndicat ou par plusieurs syndicats. Et il faut, pour les métiers qui sont ce qu'on dit à la production, donc en gros les conducteurs de train, les ASCT, ce qu'on appelle les contrôleurs, les aiguilleurs, on doit se déclarer 48 heures à l'avance, ce qui doit permettre à l'entreprise de mettre un plan de transport minimum en place en cas de grève.
On connaît très mal nos droits, en fait. Hein. C'est pareil sur les gardes à vue, par exemple.
D'ailleurs, ça, c'est des sujets importants aussi à l'aube du 10 septembre. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ignorent un peu leurs droits en cas de garde à vue, il y a des syndicats, je sais que Solidaire le fait, et j'imagine que d'autres syndicats le font aussi, qui proposent des tracts ou des fascicules qui expliquent ce que tu peux faire, peux pas faire, ce qui est conseillé de faire, de pas faire. Ça, c'est quelque chose qu'on a eu l'occasion de dire lorsqu'on a fait les AG là, avec les indignés. C'est de dire que déjà, cette histoire du 10 septembre, nous, on ne cherche pas à la récupérer, puisque les revendications avancées, c'est des revendications qu'on porte depuis toujours. Et c'est surtout leur dire que bah, nous, on vient avec notre outil, le syndicat. Donc quand je parle de ça, là, un tract qui t'explique le droit de grève, un fascicule qui t'explique la garde à vue, etc. C'est des choses qui t'arment et qui font que peut-être tu auras moins peur du coup d'aller à une manif, tu auras moins peur de te mobiliser et de, voilà, de prendre les choses en main. Ça parlait pas trop de grève au début dans ce mouvement-là, bloquons tout. Et nous, bah, évidemment, on est arrivé avec cette idée de la grève, puisque pour bloquer, il faut s'arrêter de travailler, pour arrêter les outils de production et bloquer les capitalistes, quoi, parce qu'il n'y a que ça qui regarde, c'est le chiffre à la fin de la journée. Et en fait, les gens nous ont dit « Oui, mais on attendait l'appel des syndicats.
» Et notamment, ces infos-là sur le droit de grève, on peut les trouver sur le site de Solidaires ?
Les infos sur le droit de grève, déjà, oui, on les trouve sur tous les sites de tous les syndicats de France. Et même sur le site, je pense, du gouvernement, en tapant « droit de grève », à mon avis, ça lie. On est encore dans un état démocratique, donc oui.
Est-ce qu'on peut revenir au recto de ce tract intitulé donc « On bloque tout le 10 septembre » et là, je rappelle, au moment où on se parle, on est là, à 2 jours du 10 septembre.
Comme on a décidé de faire une diff à destination des usagères, usagers, on s'est dit qu'on allait mettre, nous, par rapport à nos revendications, ce qui nous intéresse au transport. Donc on a mis sur le recto la partie qui nous intéresse du budget Bayrou, ce qui concerne les transports. Comment les transports sont financés en France, quelles sont les optiques d'augmentation de ces financements ou au moins de maintien. Nous, on a une problématique, c'est qu'il y a uniquement la SNCF qui contribue à l'entretien du réseau par un plan de financement où malheureusement les autres entreprises ne participent pas. Donc, quand je dis les autres entreprises, c'est des entreprises privées qui sont apparues depuis quelques années et qui apparaissent de plus en plus avec l'ouverture à la concurrence sur le transport de voyageurs. Donc voilà, il y a ces défauts de paiement, si on peut dire, quelque part, parce qu'ils ne contribuent pas à la même hauteur. Il y a le fait qu'on fait reposer toujours sur les usagers et usagères les augmentations de prix, alors qu'on pourrait peut-être trouver des financements ailleurs, notamment dans les bénéfices que font les entreprises autoroutières, dans les bénéfices que font les compagnies aériennes, qui sont exonérées de certaines taxes sur le carburant.
Et encore là, tu ne parles que du transport, mais évoquons aussi les 100 milliards d'euros que les riches fraudent tous les ans en France.
L'évasion fiscale. Au-delà de l'évasion fiscale, il y a les lois aussi qui permettent aussi l'optimisation fiscale. Ça, c'est un truc légal.
C'est de la fraude légale.
C'est organisé par la classe dirigeante qui s'arrange pour faire les lois.
Tous les ans, il y a entre 100 et 150 milliards d'euros qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Et tous les ans, les riches de ce pays fraudent environ 100 milliards d'euros. C'est des chiffres donnés par Monique Pinson-Charlot au Trésor de France Inter il y a quelques années.
Oui, hein, et puis c'est même les chiffres du ministère des Finances, de toute façon. Et des différentes commissions parlementaires qu'il y a eu sur le sujet. Et ce qui est quand même exceptionnel, on sait que ça existe, mais on ne parle que de, je ne sais plus, c'est 800 millions de fraude aux aides, un truc comme ça. Je ne sais plus la somme, mais c'est même pas 1 milliard, je crois.
C'est même pas la faute des pauvres si la France est endettée.
Bah apparemment si, c'est la faute des pauvres. Si tu écoutes le discours médiatique dominant et puis le discours des politiques. Et quand on voit là Bayrou, comment il présente son budget, où il fait culpabiliser les Français, les Françaises, en disant que c'est parce qu'on nous paye nos arrêts maladie, c'est parce qu'on nous paye notre retraite, c'est parce qu'on a des écoles et tout, qu'en gros, il n'y a pas d'argent. Mais enfin, je veux dire, l'argent, c'est quand même nous qui le produisons dans ce système. Quand on travaille, on paye ses cotisations. Pour tout le monde, on paye la TVA, ce qui est quand même en plus très injuste, la TVA, parce que quand tu es smicard, tu ne la ressens pas que comme quand tu es à 10 ou 15 ou 20 000 palos par mois, enfin ou même à 3 000 palos par mois. Enfin bref, tout ce discours... J'allais dire paternaliste, mais c'est vraiment
culpabilisant.
Mais il y a un côté paternaliste en plus, et c'est le gars qui sait, quoi. C'est le bon père de famille, qui gère bien.
Apparemment, il savait pas trop ce qui se passait à Bétarame, hein, Bayrou.
C'est vrai qu'en comme père de famille, il est moyen, apparemment. Oui. Mais en fait, c'est ça, c'est que ces gens savent, sauf que ça fait 40 ans qu'ils nous foutent dans cette merde dans laquelle on est. Ça fait 40 ans qu'ils ont tout le temps la même solution. Et au final, rien ne change. Et ce qui est très exceptionnel aussi dans leur discours, parce que ça fait à peu près 40 ans que majoritairement la droite est au pouvoir quand même, mais c'est la faute de la gauche.
Comme on entend dans les cortèges syndicaux, dans les manifs, de l'argent, il y en a, et pas seulement dans les caisses du patronat.
Mais bien sûr, de l'argent, il y en a, et juste c'est une question de répartition finalement. Et en discutant, encore une fois, je reviens sur les AG où on a rencontré les indignés, comme on dit, qui sont plus à l'initiative du mouvement Bloquons Tout, tous ces gens ont conscience de tout ça. Et finalement, dans les revendications qui sont un peu, alors comme disait la CGT, nébuleuses, mais en fait, c'est pas nébuleux, c'est juste que tous ces gens se rendent bien compte qu'on se moque d'eux, qu'on leur tond la laine sur le dos. Le projet, c'est vraiment d'enrichir tout le temps ceux qui n'ont pas besoin d'être enrichis parce qu'ils sont déjà assez riches. Donc l'expression de tout ça, c'est quoi? C'est la justice sociale, parce que aujourd'hui, on vit encore dans une guerre de classe où il y a une classe dominante. Ça, quand on dit ça, il y en a, ils nous regardent avec des grands yeux, genre on sort du 19e siècle ou je sais pas quoi, mais c'est une réalité. C'est une guerre de classe où il y a une classe dominante qui est bien installée, qui a bien toutes les ficelles. Et quand je dis ça, c'est pas non plus de la parano, c'est un fait. Regardez le discours médiatique, par exemple. Le discours médiatique, on a l'impression qu'il n'y a qu'une voix. Parce que pourquoi? C'est tous les mêmes qui détiennent tous ces médias. Il y a quelques petites voix discordantes, mais ce sont des médias indépendants qui n'ont pas la force de frappe médiatique, etc., pour influencer ce discours. Les gens se rendent compte, je ne sais pas si tout le monde va le verbaliser comme ça, mais que c'est une guerre de classe et qu'à un moment donné, ouais, il faut de la justice sociale et à un moment donné, il faut retourner la table pour que ça change, parce qu'on voit bien que ce n'est pas par les voies républicaines du Parlement que ça change, puisque le Parlement, globalement, il vote que des trucs souvent dans notre dos, parce que les trucs les pires, ça passe quand même souvent un peu en loose day. Et ceux qui sortent de là en faisant les populistes, là, je pense notamment au RN, eux, ils votent que des trucs pour les bourgeois. Ils votent que des trucs dans le sens de la classe dominante. Quand il s'agit de voter l'augmentation du SMIC ou des choses comme ça, ils sont pas là.
Ils ont pas contesté non plus l'augmentation du départ de l'âge à la retraite.
Par exemple. Oui, si, dans le discours. Mais par contre, ça se traduit pas dans les votes. C'est ce qu'on avait essayé de montrer. Je me rappelle, il y a un an à peu près, si on faisait une diff aussi au moment des législatives, parce qu'il y a eu la dissolution. Bah, on essayait, nous, de montrer dans notre axe, c'était de dire, regardez la différence entre le discours du RN et les votes. Parce que c'est ça qu'il faut regarder. Normalement, par exemple, les journalistes, c'est ça qu'ils devraient regarder. Quand ils interrogent un politicien ou une politicienne, qu'est-ce que vous pensez, monsieur, madame, machin, blablabla, il va faire son blabla habituel. Et après, il faut le mettre face à la... Au lieu d'acter, en gros, ce qui a été dit, je sais pas, quand tu es journaliste, normalement, tu vérifies ce qui est factuel. Bah là, c'est bizarre, vous m'avez dit ça, mais par contre, vous avez voté ça. Voilà, il faudrait parfois les mettre face à leurs contradictions pour essayer d'un peu casser ce discours. Mais bon, comme on l'a dit précédemment, vu que pour la plupart, ils vont pas mordre la main de leur maître, et bah, c'est-à-dire qu'ils valident pas ce qui vient d'être dit, mais ils contredisent pas non plus. Donc quand tu contredis pas, quelque part, bah, c'est une forme de validation quand même, quoi.
Et puis, rappelez que Sudrail, Solidaire et d'autres syndicats ont aussi toujours combattu pour qu'on conserve cet outil de service public qui est le chemin de fer, qui est une merveille technologique qui marchait vachement bien depuis le 19e siècle. Oui, oui. Et que vous êtes aussi sur, pas tant là pour défendre vos salaires ou votre pouvoir d'achat, mais pour préserver ce bien commun qui est le transport ferroviaire. Et il y a de quoi s'halluciner en voyant le développement des autoroutes, en voyant ce projet par exemple de méga canal monstrueux qu'il y a, alors que quand on regarde une carte des réseaux ferrés, le moindre bled de campagne était desservi par le chemin de fer. Et cet outil-là, vous vous battez aussi pour essayer de le conserver et de le préserver. C'est quand même délirant de voir tous ces grands projets inutiles de routes, de canaux, d'autoroutes.
Bah, le problème de tous ces projets, oui, c'est que justement ces projets, ils captent des budgets qui pourraient servir, enfin, déjà dans un premier temps, aussi régénérer le réseau. Alors après que le réseau, il est un peu diminué, c'est aussi lié à l'évolution technologique de la société. Il y a eu l'apparition de la voiture, les transports individuels. Donc aujourd'hui, il n'y aurait pas forcément une pertinence à aller rayonner dans le territoire comme on pouvait l'avoir, comme tu le disais, au début du XXe siècle.
Tout le monde n'a pas le permis. Hein.
Tout le monde n'a pas le permis. Je veux dire, on peut essayer, par exemple, il y a des choses à développer. Hein. Attention, je ne suis pas en train de dire, il faut effectivement ouvrir des gares. Là, il y a des projets dans notre région dans ce sens-là. Alors malheureusement, c'est sur l'agglomération, parce qu'ailleurs, on va plutôt fermer. Mais sur l'agglo, on essaye de rouvrir un peu des gares. Notre combat premier, c'est effectivement le maintien du service public ferroviaire, son amélioration. On a aussi un combat, c'est d'essayer de faire qu'il soit pas trop cher. Nous, dans l'idéal, on aimerait qu'il soit gratuit, mais alors là, c'est pareil, on va nous regarder bizarrement. Mais après, c'est ça, hein, c'est des choix. Il y a des budgets, il y a des ressources normalement financières qui passent par l'impôt ou autre. Et ça dépend comment on choisit les arbitrages, comment on choisit de les orienter. Bon, effectivement, aujourd'hui, comme ceux qui dominent, ils sont plutôt dans l'individualisme, ils sont plutôt dans les énergies fossiles. Ils ne vont pas aller dans le sens de développer le chemin de fer. On sort aussi à une autre difficulté. C'est un choix qui a été fait, c'est le choix de l'ouverture à la concurrence et en gros de la privatisation, quoi. C'est-à-dire que tout ce réseau, tout ce matériel, tous ces personnels, tout ça, ça a été financé par le denier public, l'argent des contribuables. c'est-à-dire notre bien commun. Enfin, il n'est même pas vendu, il est donné en fait. Il est donné à des boîtes privées qui viennent, ou voir la SNCF qui en profite, parce que la SNCF, quand il y a un appel d'offres sur l'ouverture à la concurrence, elle se positionne aussi. Mais pour pouvoir se positionner, elle doit créer une entreprise dédiée, donc une filiale, donc une entreprise privée. Et ainsi, ça permet au passage de casser les droits des travailleurs, puisque ce n'est plus les mêmes droits que quand tu es dans l'entreprise. Tu n'as plus les conquis des cheminots, qui commencent aussi à être perdus un peu. Mais là, tu les perds carrément. Tu rentres dans un contexte privé totalement, quoi. Donc, tu dois reconquérir des droits, tu dois remettre en place, renégocier des choses. Tout ça, c'est un projet finalement bien ficelé voilà, des capitalistes, d'essayer de tout découper. Partout où je peux gratter des centimes, je vais aller les gratter. Et quand je ne peux pas les gratter sur des choses matérielles, et ben, je vais les gratter sur ceux qui bossent, en fait, tout simplement. Ouais. Et on va jouer sur les conditions de travail des gens, on va jouer sur les salaires. Ça, les salaires, effectivement, c'est aussi un de nos combats, notamment parce qu'au chemin de fer, il y a des grandes disparités de salaires entre certains métiers. Et bizarrement, c'est ceux qui ont les conditions les plus difficiles en extérieur ou autre qui vont gagner le moins d'argent. Mais ça, malheureusement, si on observe la société dans son ensemble, c'est bien souvent le cas. Les travaux les plus difficiles et parfois même les plus utiles qui ne sont pas forcément le mieux rémunérés. Parce que le salaire, c'est une chose, mais ce qui est important aussi, c'est les conditions de travail. Parce que parfois, pour du salaire, on pourrait te faire accepter une dégradation de tes conditions de travail. Il y a ça, là, notamment dans le projet Bayrou, là, où tu peux racheter ta cinquième semaine de congé, je ne sais pas quoi. Donc, pour avoir un peu plus de sous, tu vas avoir moins de repos. Enfin, il y a un moment donné, l'argent, c'est bien, mais il faut aussi voir dans quelles conditions on fait son travail. Et est-ce qu'aussi on a des moments pour profiter d'autres choses dans la vie que de travailler, quand bien même on aime son métier. Il y a des métiers qui ont déjà des salaires, on va dire, corrects. Par contre, on se rend compte que, ouais, ils ont des salaires corrects, mais ils travaillent dans des conditions difficiles. Donc, est-ce qu'on ne va pas essayer ? C'est aussi ça le rôle, moi, je trouve, de la lutte syndicale. C'est pas toujours l'argent, l'argent. Il n'y a pas que l'argent, parce que c'est ça qu'on nous fait miroiter tout le temps. L'argent, c'est un totem qu'il faut... Enfin, non. Nous, c'est notre point de vue, c'est avoir de bonnes conditions de vie, quoi. Et ça passe, effectivement, malheureusement, dans cette société consumériste, par avoir un peu d'argent, forcément. Mais c'est bien quand t'as de l'argent aussi d'avoir du temps et une bonne santé pour pouvoir en profiter. Donc si tu te tues à la tâche, t'auras beau avoir du pognon, ça va pas t'avancer à grand chose.
La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite.
Comment ça s'est passé cette distribution de tracts devant la gare de Tours là ce matin ?
Bah, les distributions devant la gare de Tours, ça se passe toujours plutôt bien. On arrive à avoir quelques échanges, mais c'est vrai que c'est pas tout le temps le lieu où on a le plus d'échanges, les gares, parce que...
les gens vont bosser, ils sont pressés.
Voilà, soit ils descendent du train, et soit ils montent, mais bon, ils n'ont pas non plus beaucoup de temps pour parler. Mais par contre, on se dit que les gens prennent, la plupart prennent le tract et... Si par exemple ils vont monter dans le train, c'est cool, on se dit qu'ils vont avoir le temps de le lire, ils vont avoir le temps de peut-être un peu réfléchir à ce qu'on propose. Et voilà, c'est, en général c'est un succès ces distributions.
Ouais. Mais j'ai vu des gens qui lisaient sur le quai, donc voilà, et j'en ai pas vu par terre encore. Donc,
C'est ça, c'est un indice. Après on repasse en général par la gare, voir si ça traîne un peu partout. Déjà si ça traîne, on les ramasse, et etc. Mais oui, ça permet de voir si. Mais je pense que. La plupart des gens prennent parce qu'il y a quand même la curiosité aussi, c'est-à-dire que tous les gens ont envie de savoir ce qui est proposé, ont envie de... Bonjour. Ont envie d'avoir peut-être d'autres points de vue que ceux qui se sont faits, etc. Donc, je me rends compte aussi en faisant ce genre d'exercice que les gens ils sont pas si binaires et polarisés que le discours ambiant essaie de mettre en place cette division en fait où il y aurait l'équipe des blancs, l'équipe des bleus, des rouges, etc. Enfin bref, mais c'est pas là qu'on discute le plus. Okay. On va plus discuter quand tu fais une diff sur un marché. Là, les gens, ils sont cool, ils font leurs courses, ils ont le temps de parler et on a le temps d'échanger.
Pour se quitter, là, on a que l'embarras du choix entre trois morceaux. Est-ce qu'on joue les vulves assassines, la retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Est-ce qu'on joue planète boum boum du fret, ou est-ce qu'on joue taxer les riches, pas de retraités sur une planète brûlée?
Ah, la dernière proposition, je pense, c'est celle qui va être plus en rapport avec l'ambiance du moment.
Taxer les riches.
Ouais, ouais, ouais. Après, la première m'intéressait bien, l'histoire de la retraite, parce que ça, c'est toujours pas digéré, c'est toujours en travers de la gorge de pas mal de monde, je pense. C'est là qu'on voit qu'il est important de lutter. On a eu des conquis, et les conquis sont en train d'être rognés, ils sont en train de disparaître, on est en train de nous les enlever. Aujourd'hui, quand on regarde un peu la société dans laquelle on vit, on a l'impression d'être 100 ans en arrière, à une époque où les gens avaient beaucoup de choses à conquérir, et c'est une époque où on a conquis beaucoup de choses, dans un contexte semblable à celui d'aujourd'hui, avec une droite très très décomplexée, une extrême droite de même. C'est un peu inquiétant quand même, en vrai, ce parallèle qu'on peut se faire des fois. Et c'est ça aussi qui motive quand même à se bouger le cul et à essayer de partager notre conviction en espérant qu'elle trouve écho et qu'on arrive à mobiliser du monde, quoi. Et le 10 septembre, bah, j'espère qu'on sera nombreux déjà dans les petites actions qui sont prévues. Je pense que là, une des premières réussites qu'il pourrait y avoir le 10 septembre, c'est au moins que les gens se parlent. Les gens se retrouvent, se parlent, qu'ils se rendent ailleurs que derrière un écran et des réseaux sociaux. Alors, ça a une utilité parce que c'est parti de là et tant mieux. Ça a été l'étincelle. Maintenant, il faut que ça se concrétise dans des vraies discussions avec des vrais gens qui se parlent.
On l'a vu il y a quelques années, et ça s'est beaucoup dit, hein, faire un barbecue sur un rond-point.
Bah, ça a bien marché, ça a bien permis que les gens se rendent compte qu'ils sont dans la même condition et que finalement, ils font partie à peu près tous de la même classe. Celle qui, en fait, fait s'engraisser ceux du dessus, qui continue à...
La France qui se lève tôt et qui paye des impôts.
Mais il n'y a pas que, parce qu'il ne faut pas oublier ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un job. Ah oui, ils se lèvent peut-être pas tôt parce que ils n'ont pas malheureusement quelque chose qui pour avancer dans la vie, pour s'intégrer. Alors attention, je mets pas le travail en, c'est pas à mon avis le meilleur moyen de s'intégrer, de s'émanciper dans la vie, mais c'est quand même un lien social, c'est quand même quelque chose qui dans notre société te permet d'avoir un revenu, te permet de vivre. Et il faut quand même pas oublier du coup ceux qui sont privés d'emploi parce que il y a pas d'emploi ou parce que ils sont malades ou parce que voilà. Donc il n'y a pas que ceux qui se lèvent tôt et qui payent des impôts qui comptent, quoi. L'idée, c'est surtout pas l'individualisme, c'est de la répartition, c'est arrêter de se faire tondre, mais pas forcément pour avoir plus et pouvoir s'acheter plein de trucs inutiles. C'est juste au moins qu'on a un vrai projet collectif et qu'on soit le plus nombreux possible dans des bonnes conditions. Et en plus, il y a un autre sujet quand même aujourd'hui, c'est quand même notre environnement. La société telle qu'elle est menée aujourd'hui, continue à nous mener vers un précipice de complications.
Du coup, on va peut-être finir sur pas de retraités sur une planète brûlée alors.
Donc voilà, on retombe sur nos pieds, effectivement, c'est nickel. Et on a bien fait de choisir cette troisième chanson, qui sera parfaite.
Ok. Pas de retraité sur une planète brûlée. Retrait, climat, même combat. Pas de retraité sur une planète brûlée. Retrait, climat, même combat. Pas de retraité sur une planète brûlée. Retrait, climat, même combat. Pas de retraité sur une planète brûlée. Retrait, climat, même combat. Sur une planète brûlée, retraite, climat, même combat. Pas de retraité sur une planète brûlée, retraite, climat, même combat. Pas de retraité sur une planète brûlée, retraite, climat, même combat. Pas de retraité sur une planète brûlée, retraite, climat, même combat.
Toujours le 8 septembre devant la gare de Tours, deux personnes en train de distribuer des tracts. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Qu'est-ce qui est marqué sur ces tracts ? Indignons-nous, bloquons tout. Oui à notre liberté et notre dignité.
On est là pour parler en fait des mesures principales qu'on va défendre par rapport au 10, c'est-à-dire notamment la mise en place de la taxe Zuckerman, le blocage des prix des premières nécessités, également tout ce qui va être les référendums populaires, le RIC. Enfin, faire en sorte que tout le monde puisse vivre de son travail dignement.
Quand vous dites nous, notre, vous êtes qui ?
Nous, en fait, on est membre de l'Assemblée, l'Assemblée donc, générale locale, qui s'est mise en place.
Pour le 10.
Pour le 10, oui, pour les camarades. Et nous, à l'intérieur, enfin, on est membre de la France Insoumise, voilà, en tant que soutien, bien sûr.
Okay,
pas en tant qu'initiateur, puisque nous, on est là dans notre posture de soutien et d'accompagnement pour un portage un peu plus haut, notamment sur l'Assemblée nationale et des fois au niveau local aussi, par exemple, en conseil municipaux, comme on a quelques élus.
Est-ce qu'on peut survoler les grands points sur ce tract côté recto ?
On a la proposition des 211 milliards à supprimer pour l'aide aux entreprises hein, sur l'année 2023. C'est les chiffres qu'on a pu avoir, ils ont sûrement pas changé depuis. Également, le doublement du budget de la guerre, enfin, on s'y oppose. Ainsi que le fait, en fait de dire que les assistants familles détiennent aujourd'hui chez les plus riches 44% du PIB. Il faut couper la manne financière qu'ils ont aujourd'hui hein, vis-à-vis du capital et de l'économie de marché. Donc la destruction voilà, des hôpitaux, on dit stop, ainsi que la loi du plomb. On a eu une victoire, c'est un début, mais ce n'est pas du tout suffisant. Et dégager la Macronie pour essayer d'avoir une élection présidentielle et potentiellement partir vers un exemple démocratique en créant assez rapidement une constituante populaire pour une 6ème République.
Il y a d'autres points encore, hein, réduire et bloquer les prix de l'énergie, abroger la réforme des retraites et retour à 60 ans, réorganiser le temps de travail, sécurité sociale intégrale, égalité des droits pour tous et toutes, démocratie directe et créer une caisse de grève générale pour financer les batailles présentes et à venir. Est-ce que c'est pas problématique que LFI, parce qu'au début, enfin dans les lancements du mouvement du 10 septembre, là, il avait été dit pas de syndicat, pas de parti politique. Et les filles, c'est pas fait jeter pour se greffer au 10 ?
Bah, en fait, c'est pas fait jeter, puisqu'en fait, nous, on vient en posture de soutien. On laisse les personnes des syndicats, des assos prendre la main. Le soutien qu'on peut apporter un peu politiquement, et même en termes de valeur, parce qu'on est extrêmement similaires dans nos propositions. Les propositions sont également dans ce que nous, on propose déjà. Donc, il n'y a pas de souci, puisque chacun, en fait, arrive à rester à sa place. On ne sert certainement pas à phagocyter la chose, c'est-à-dire que l'Assemblée, elle est ouverte à tout le monde. On représente ce qu'on a représenté.
Et personne n'a été vous dire « Ouais, mais vous êtes un parti politique, dégagé ».
Non, alors déjà, on n'est pas un parti politique, je le rappelle ici, hein, c'est un mouvement gazeux, la France Insoumise. Mmh. Sur l'aspect statutaire, sur l'aspect ouverture aux autres, où nous, on fonctionne sur du consensus, et pas sur un système de vote avec une personne qui va pouvoir prendre le pouvoir pour les autres. Donc, non, ils n'ont pas tiqué, au contraire, il y a eu une ambiance très agréable.
Autant que je sache, il y a quand même pas mal de personnes qui sont à l'origine de ce soulèvement, qui ont voté France Insoumise, je crois que c'est autour de 70%, et entre 25% et 30% de gens qui ont voté Philippe Poutou. Bon, puis on voit bien qu'il y a une réelle convergence des revendications.
Pour la petite histoire, rappelez que la France Insoumise était aussi, il y a quelques années, du côté des Gilets jaunes et en soutien des Gilets jaunes. Donc il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas là non plus pour le 10.
Oui, et puis il y a quand même des syndicats là aussi qui rejoignent. Même s'il y a eu des hésitations, là, il n'y a pas de phénomène de rejet.
D'accord. Hein, c'est vrai. Il n'y a pas d'accusation non plus de « vous voulez truster le truc, prendre le contrôle du machin ».
Pas que je sache en tout cas. Okay. Voilà.
Toujours lundi 8 septembre, vers 20h, devant l'hôtel de ville, un peu partout en France, des gens ont organisé des pots pour fêter le départ de Bayrou.
Mégaphone plein d'autocollants solidaires, Sud Solidaire étudiant. Salut Tristan. Je te sens pas particulièrement affligé, pourtant la France est quasiment en deuil. Tu rigoles à l'évocation du départ de François Bayrou.
Bah, c'est qu'on en est quand même à 6 premiers ministres sous Macron, au bout d'un moment ça devient habituel. On commence à s'ennuyer quoi.
Et donc, t'es venu boire un coup ?
Bah, on n'a pas grand-chose à fêter en ce moment, donc si on peut au moins fêter ça... Même si, bon, ça donne pas que des beaux jours sur la situation qui va arriver, Macron a promis qu'on aurait un Premier ministre dans les jours qui arrivent. On va encore se taper sûrement un Premier ministre du Modem ou je ne sais quelle ordure de la droite, parce que ça va être ça, hein, de toute façon, avec le boulevard qu'il a ouvert à l'extrême droite ces dernières années...
Du côté de Sud Solidaire étudiant, cette rentrée universitaire, scolaire, sociale.
Cette rentrée, elle se fait dans un contexte particulier avec la mobilisation du 10 septembre. On a pas mal d'étudiants et d'étudiantes qui se rapprochent de nous pour savoir comment il est capable de casser cette dynamique de casse des universités publiques et gratuites qui ont été mises en place par le gouvernement. Donc on sent quand même un relent dans la classe étudiante. Après, on va pas refaire un mai 68 demain, hein. Les dynamiques sont plus comme ça, mais il y a quand même un regain d'énergie, d'espoir, ouais, c'est ça le mot, c'est l'espoir, qui revient quand même beaucoup en ce moment, et ça fait plaisir. Le mouvement du 10 septembre est tellement disparate, tellement ouvert, et c'est populaire en fait, et c'est ça que les mouvements sociaux récents avaient besoin. C'est un mouvement qui arrive à toucher tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, à tous les niveaux, pour toutes les raisons qui peuvent concerner les gens personnellement, ou socialement, économiquement, etc. On peut au moins remercier Bayrou pour ça quand même. Il a réussi à mettre pas mal de monde d'accord pour le 10.
Et on pourrait avoir une jeunesse très en colère parce que c'est pas le pied d'être étudiant en France en 2025. Est-ce que tu peux nous rappeler combien d'étudiants ne mangent pas à leur faim?
Par exemple, le chiffre le plus choquant pour moi, l'année dernière, 57% des étudiants sautaient au moins un repas par jour, pour faute d'argent, hein, parce qu'il faut payer le loyer, etc., que les loyers du Crous ont encore augmenté. Les bourses n'ont pas augmenté, merci Bayrou pour cette année blanche, ça commence dès maintenant pour nous. Il y a aussi cette histoire de frais d'inscription à la fac. Pour un étudiant non boursier, les frais d'inscription peuvent s'élever jusqu'à 600 euros, en fait, c'est énorme. Enfin, même si pour les étudiants boursiers qui se sont remboursés, il faut quand même avancer cet argent. En tant qu'étudiant, c'est vraiment pas facile à faire de pouvoir débourser autant d'argent, sachant que les étudiants et les étudiantes ont souvent bossé tout l'été avant pour pouvoir s'assurer une certaine stabilité financière, au moins le temps de leur année d'études. C'est souvent des montants qui sont exorbitants et impossibles à payer pour les étudiants. Il y a beaucoup de gens qui renoncent à la fac à cause de ça. Hein.
Donc, il va falloir réviser un peu cette image d'Épinal, de l'étudiant glandeur pour qui la vie est belle.
Ah non, 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 il y a 40% des étudiants qui font la queue régulièrement aux distributions alimentaires de toutes les associations possibles imaginables. Il y a encore récemment les Restos du Cœur alertés sur le nombre grandissant d'étudiants qui commençaient à faire la queue aux Restos du Cœur. Non, non, la situation est plus qu'alarmante. Les étudiants sont plus que dans la merde. Les parents des étudiants sont plus que dans la merde aussi. En fait, tout le monde est dans la merde et il n'y a qu'en se mobilisant tous et tout ensemble qu'on pourra faire changer les choses. Et il faut être là, quoi. Il faut suivre ce qui va se passer. Il faut se joindre aux assemblées générales. Il faut se syndiquer aussi. Il faut faire grève, tout le monde a le droit de faire grève, il faut le faire. Bon, en tant qu'étudiant, c'est compliqué de faire grève, mais il y a moyen de s'organiser autrement. Et n'importe quel pas qui est fait pour rejoindre le mouvement social, que ce soit un petit pas en avant ou des très grands pas en avant, il faut le faire quand même. Ce qui fait notre force, c'est le nombre. Le nombre de pauvres enfants, c'est très grand. De pauvres, de prolos, vous appelez ça comme vous voulez, hein, mais le nombre de personnes qui sont dans la merde à cause de ce gouvernement, du capitalisme, de cette politique financière en France, je pense qu'on est assez pour se réunir et faire la fête tous ensemble, quoi.
Et Sud Solidaire Étudiant est un syndicat accueillant et il n'y a pas besoin d'avoir une énorme culture politique ni d'avoir lu Le Capital.
Ah non, 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 bien sûr que non. Au-delà de notre adhésion à l'Union Syndicale Solidaire qui fait qu'on se joint aussi à tous les mouvements sociaux professionnels et interprofessionnels, on fait aussi tout le travail d'un syndicat dans les milieux d'études. On fait de l'accompagnement des étudiants et étudiantes, que ce soit pour les bourses, pour les demandes de logement, pour les réinscriptions, pour les inscriptions, s'il y a des problèmes avec certains profs. En fait, on fait tout le boulot d'accompagnement que pourrait faire n'importe quelle structure en se revendiquant du syndicalisme. C'est important et c'est vraiment ce qui peut faire bouger les choses. Si le syndicat arrive à faire bouger les choses dans le travail, le syndicat peut faire bouger les choses à la fac.
Je répète, à Sud Solidaire, tout le monde est bienvenu.
Bien sûr. Et on vous accueillera les bras ouverts et avec plaisir. Que ce soit pour passer un bon moment avec nous ou si vous avez un problème. Hein. Voilà.
Soirée du 8 septembre devant l'hôtel de ville de Tours. Quelques personnes qui sont là. Bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Qu'es-tu venue faire ce soir, place Jean Jaurès?
Fêter le départ de Bayrou. Boire un petit coup et surtout de savoir qui s'en va. Parce que bah, il fait que de la merde, donc voilà.
Bonsoir papy.
Bonsoir.
Qu'attends-tu?
Rien, si c'est de la part du gouvernement, mais rien. Rien. Juste pour boire un verre et puis la démission de Bayrou. Quoi. Mais est-ce que ça changera réellement quelque chose? C'est ça le problème.
Bonsoir Odile.
Bonsoir.
Qu'as-tu amené pour l'apéro?
Quelques bières et quelques chips.
Alors, il te laissera quel souvenir, François Bayrou?
Excusez-moi, je m'étouffe. Oui. Je préfère pas, j'ai des mots qui me viennent, mais ça se fait pas. Oui. Contente qu'il s'en aille. J'espère qu'on va pas avoir une peste à la place du choléra, surtout ça quoi. La dette haute. J'ai vu sa tête à la télé, l'impression qu'il avait pris un parpaing sur la tête. Ouais. Il va retourner dans sa petite région natale. Voilà.
Retrouver son bureau tout neuf à 40 000 euros.
Au frais de la princesse, dis donc. Une petite chaise à 20 000, c'est pas grand-chose. Hein.
Ça veut dire qu'il en a plein le dos en même temps. Donc,
vous vous rendez compte? Il a pensé qu'on pouvait aussi taxer les pourboires des serveurs.
Ah, mais...
J'ai trouvé ça scandaleux, mais ouais. Franchement, ils savent même plus où chercher, quoi. Les pourboires des serveurs dans les restaurants ou dans les bars.
On pourrait prendre une taxe dans les sébiles des mendiants aussi.
Ah ben ouais, et chez les curés aussi.
Oh non, ah non, ah non, on touche pas aux curés.
Allez, à la destitution.
À la destitution de Bayrou.
Chut.
Thank you.
Chin, en attendant de trinquer prochainement à la destitution de Macron. C'est d'ici que se termine cette balade d'avant le 10 septembre 2025, à réécouter sur notre site polémiquesetlavoixoff.com avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur votre radio libre préférée. Ce n'est qu'un combat, continuons le début, salut.